La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07, de retour dans les grandes gueules du sport. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous le savez, vous êtes très nombreux à nous écouter, très nombreux à nous écouter en podcast. On a parlé de l'OM et du grand entraîneur après le grand attaquant. N'hésitez pas à nous télécharger, mais après, tranquillement, après l'émission, cet après-midi. Toujours avec Simon Dutin ce matin, Cyril Linette, Julien Beneteau, Marc Madio dans quelques instants. Les droits TV, toujours pas de diffuseur pour la Ligue 1 la saison prochaine. La Ligue 1 est-elle encore attractif, ce sera notre bras de fer. Victor Wembanyama dans la punchline des GG à 10h30. Il ne veut pas de l'étiquette de patron en équipe de France pour les Jeux Olympiques. Wemby peut-il encore se cacher? Ce sera notre question. Faut-il avoir peur d'un Roland Garros au rabais? Nous sommes à une semaine du grand chelem parisien et les stars ne sont pas au mieux. Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner. Et vous allez voir là aussi, les GG ne sont pas d'accord. Et puis cette information qui vient tout juste de nous parvenir, le groupe du Paris Saint-Germain est tombé pour le dernier match de la saison. Dernier match en Ligue 1 de la saison, évidemment, sur la pelouse de Metz. Kylian Mbappé, eh bien, n'est pas de ce groupe, n'est pas du groupe de Luis Enrique. Il ne sera donc pas présent ce soir à Metz. Et on peut légitimement se poser la question de sa présence ou non samedi prochain pour la finale de la Coupe de France face à Lyon. On développera cette actualité un petit peu plus tard.
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Alors ce soir, c'est l'épilogue de la saison de Ligue 1 et notre championnat n'a toujours pas de diffuseur pour la saison prochaine. En un an, c'est vrai, les trois têtes de gondole de notre championnat ont fait leur valise. Neymar et Messi l'été dernier, Kylian Mbappé dans quelques jours. Forcément un coup dur pour la LFP qui doit en plus vendre un produit dont l'identité du vainqueur est souvent connue avant même le début de la saison. La Ligue 1 est-elle encore attractive? C'est notre débat, c'est notre bras de fer. Dans le coin gauche, la team oui, représenté par Marc Madio. Il est bien seul ce matin, mon cher Marc. Tout va bien, Marc?
Très bien.
Solide sur les appuis aussi?
Toujours.
Ok. Dans le coin droit, la team non, Julien Beneteau, Cyril Linette et Simon Dutin. Bon, je te cache pas, Marc, que tu pars pas avec des points d'avance au niveau des internautes. Mais,
aucun problème.
Mais tu peux quand même retourner la situation un peu comme hier, où t'as tenté, tu t'es bien battu. Bon, ça n'a pas toujours marché, mais c'était plutôt pas mal.
Mais l'essentiel, c'est d'y croire.
Exactement, et tu vas y croire, et ce sera dans quelques instants. On va retrouver notre journaliste RMC Sport qui suit de près ce dossier pour RMC, c'est Arthur Perrault. Bonjour Arthur.
Salut GG, bonjour. Salut à tous. Arthur.
La question sur ce dossier est toujours la même à chaque fois que tu viens dans cette émission.
Oui.
On en est où?
Eh bien, ce que l'on sait, c'est que le dernier multiplex de la Ligue 1 ce soir sera diffusé par Amazon. Dans les négociations en cours, le géant américain pourrait récupérer au mieux un match de Ligue 1 avec comme budget entre 80 et 100 millions d'euros. Cette rencontre serait intégrée dans l'abonnement Prime de base et non plus dans un pass dédié au championnat de France. Mais le grand favori des discussions reste beIN Sport. Le média qatari a donné son accord à la Ligue pour valoriser ses droits domestiques à 700 millions d'euros, mais à une condition, qu'une solution financière soit trouvée avec son distributeur exclusif Canal+. La chaîne cryptée veut prendre son temps et garde une relation glaciale avec la LFP. De son côté, DAZN a retiré son offre de 500 millions d'euros du bureau de l'instance. Plus aucun contact entre les deux parties. Pendant ce temps-là, eh bien, les clubs patientent non sans stress. Ils avaient jusqu'à mercredi pour remettre à la DNCG leur budget prévisionnel de la saison prochaine. La Ligue leur a demandé de tous reporter le montant qu'ils ont actuellement en espérant bientôt une bonne nouvelle.
Merci beaucoup Arthur Perrault, tu restes avec nous pour les différentes informations et puis tu suis également de près le Paris Saint-Germain et tu développeras l'actualité Kylian Mbappé qui n'est pas présent dans le groupe ce soir pour affronter Metz pour la dernière journée de Ligue 1. La Ligue 1 est-elle toujours attractive? C'est notre débat et on vous a posé la question, chers auditeurs, sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Et pour l'instant, c'est 35% oui, 65% non. Marc, tu es derrière, tu vas devoir te débattre. Et débuter. Marc, pourquoi encore attractive?
Tout simplement parce que c'est le championnat de France. Et on est en France. Et on a un public qui s'intéresse et des téléspectateurs qui s'intéressent à ce qu'est le championnat de France de football. Après, certes, il manque un Mbappé, mais on a fait le tour de la question avec Mbappé, on a fait le tour de la question avec Messi, on a fait le tour de la question avec Neymar, et de nouveaux joueurs vont émerger. On le voit au PSG en ce moment, il y a des jeunes joueurs qui arrivent sur le devant de la scène, qui vont remplacer les stars qui sont partis, et on va créer de nouvelles stars en France dans ce championnat. Et donc, il y aura une valorisation à un moment donné, il y aura une offre qui sera faite. Alors, peut-être pas ce qu'elle était précédemment, mais ça va rebondir et on va refaire de nouvelles bases. C'est un éternel recommencement. Moi, je suis confiant sur le devenir du championnat de France et des droits télé qui s'y rattachent. Je suis persuadé que ça va on va redonner de l'attractivité au championnat en plus. Parce que le fait que Mbappé soit parti sous d'autres horizons va réouvrir quelque part la compétition du championnat. Et pour peu que l'OM arrive à trouver un entraîneur de choix, un Mourinho de choix et que quelques clubs se renforcent, va y avoir de l'attractivité. Et alors, le montant financier du départ sera peut-être un peu limité, mais on va retrouver des fondamentaux qui vont faire redémarrer ce championnat de France et qui va être attractif. Là, quand on a commencé la saison cette année, on savait tous que de toute façon le PSG allait gagner. Sauf que là, on repart sur une nouvelle donne. Et moi j'aime bien ce qui se passe en ce moment avec Enrique au PSG. On va avoir un rééquilibrage des forces, une identité au PSG, peut-être un nouveau départ à l'OM, et tout ça va redonner une belle dynamique qui va être porteuse auprès du public français. Moi j'y crois.
Oh, j'ai l'impression que tu viens de convaincre.
Il est bon, Marc, mais c'est pas exactement la question qui est posée. Si la question qui est posée, c'est est-ce que le foot français continue d'intégrer.
Mais nous sommes là pour faire une forme de politique et nous répondons à notre façon aux questions.
Si on est là pour il est venu avec ses réponses. Si la question, c'est effectivement est-ce que le foot français peut toujours intéresser les gens après le départ d'Mbappé et ainsi de suite, j'en suis persuadé. Là, la question était sur les droits télé. Pour les droits télé, la réponse est évidemment non. L'appel d'offres, c'est non de manière indiscutable. L'appel d'offres a été lancé il y a un an. On nous annonçait 1 milliard d'euros. On nous parlait d'Apple, de DAZN, de tout un tas de gens. Et parfois, Arthur dit DAZN n'a pas été qualifié. Non, c'est DAZN qui ne vient pas. Hein. C'est pas la Ligue qui décide. C'est les diffuseurs qui ne viennent pas. Donc, ça n'a pas marché. Et on va finir avec un deal politique, puisqu'on va forcer la main au Qatar et à Bein pour mettre l'argent qu'il faut. C'est un deal purement politique. Pourquoi ? Parce que le foot français a sauté sans parachute en quittant Canal, en tournant le doigt Canal deux fois de suite et se retrouve dans une situation assez catastrophique. Parce que Marc l'a dit, un championnat dominé par un seul club, ça n'est jamais bon et que c'est un vrai problème parce qu'il y a eu quelques soucis d'image et puis parce que surtout, le foot français a toujours confondu la valeur de son produit avec la valeur stratégique qu'il en avait. Tant qu'il y avait une stratégie d'opposition entre les diffuseurs, on pouvait mettre des centaines de millions d'euros. Mais Canal perdait beaucoup d'argent sur le foot. Il ne le faisait pas pour des raisons de rentabilité, il le faisait pour des raisons concurrentielles. La valeur stratégique du produit Ligue 1, quand on raisonne par rapport au nombre de gens vraiment motivés pour un abonnement, c'est plutôt 500 millions d'euros. Donc c'est un échec. Après, est-ce que les dirigeants de la LFP auraient pu faire mieux ? Je ne crois pas, compte tenu du contexte. Moi, je pense qu'ils se sont bien battus, qu'ils ont fait le maximum. Et est-ce que c'est catastrophique ? Et finalement, je reboucle avec Marc. Non, parce qu'au final, 700 millions, plus les droits internationaux, une diffusion sur Bein, qui est un diffuseur, qui a pignon sur rue, auquel les gens sont abonnés, avec peut-être un petit bout sur Canal, ça peut être une manière de repartir du bon pied. La Ligue travaille, il y a des progrès sur le digital, sur tout un tas de choses. Il y a la volonté de travailler le produit. Il y aura probablement de belles années à venir et peut-être de quoi ramasser. C'est la mise dans 5 ans. Là, c'est compte tenu de la situation, moi je trouve, un résultat logique qu'on ne peut pas considérer comme un grand succès, mais qui n'est pas catastrophique et qui permet de bâtir sur l'avenir.
Ok, pas attractif, mais ce n'est pas grave, si je retiens bien ce que tu dis, Cyril. Simon.
C'est pas grave, après tout dépend de ce qu'on fait de cette information, parce que le fait est que depuis 20 ans ça n'augmente pas, et je pense que la Ligue a eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre, parce que on a vu arriver Lionel Messi durant une période durant laquelle il n'y avait pas encore de négociation. Donc on s'est dit il y a Messi, il y a Neymar, il y a Mbappé, c'est fantastique, ils vont aller nous taper une Ligue des Champions et on va vendre notre Ligue à 1 milliard. Je pense que Mbappé, il a bon dos, c'est pas parce qu'il est plus là qu'on va moins s'intéresser à la Ligue 1, en tout cas au plan national. Je pense qu'il faudrait trouver une solution pour développer les droits à l'international, qui sont quand même absolument ridicules, et c'est là, je pense, qu'il y a la plus grosse marge. Voilà, là, je parle sous le contrôle de mon ancien patron à l'époque de Canal, qui connaît bien mieux les enjeux stratégiques. En effet, est-ce que il y a un potentiel d'accroissement si grand que ça ?
Moyen, parce que tous les diffuseurs aujourd'hui, ils ont la première Ligue en priorité. priorité, la Liga, voilà. Plus personne ne veut dépenser des millions, donc il y a un potentiel moyen. Après, ça dépend, à mon avis, de deux choses. Un, les performances des clubs français en Coupe d'Europe. Ce que la Ligue, on peut critiquer les choix qui ont été faits, mais ce que la Ligue a compris, les performances françaises en Coupe d'Europe, c'est la publicité pour le championnat de France. Et le suspense, intrinsèque au championnat.
On a quand même deux demi-finalistes, hein, cette année.
Exactement. Et le suspense intrinsèque à ce championnat, qui n'existe plus depuis 10 ans. Et là où je vous rejoins, c'est que on n'en est pas loin, parce que l'OM, un OM puissant, capable de faire le match avec le PSG, honnêtement, ça suffirait. Hein. Et ça suffirait pour donner un intérêt absolument
crucial. Ça suffirait, mais ça fait quand même beaucoup de si à chaque fois.
Ça fait deux si, hein, des performances en Coupe d'Europe et un OM très fort. Mais
plus,
c'est pas
tu
énorme.
Peux rajouter la densité qui s'est quand même un petit peu augmentée dans les concurrents.
Mais c'est ça que je veux dire avec les performances en Coupe d'Europe. Oui, matchs, le PSG se balade moins
d'avance. Les écarts qui sont
Lille, entre Nice, Lille, Lyon.
Mais notre football français ne va pas, parce que vous parlez de Nice et de Lille, qu'est-ce qui va se passer? Ils font des belles saisons, ils sont européens. Ils vont changer d'entraîneur, les deux. Donc ils vont repartir sur un nouveau truc. Donc Nice et Lille vont pas s'installer dans les 5 ou 6 premiers. Donc l'OM va essayer de remonter, mais va pas s'installer. On n'a pas de club, on n'a pas d'institution. Donc pour les droits à l'international, nos clubs français sont d'une faiblesse lunaire. On a gagné 2 coupes d'Europe sur l'histoire.
Oui, mais là on a quand même fait 2 demi-finales sur le dernier.
Mais oui, et il a fallu pour ça que le samedi et le dimanche nos clubs français jouent pas en championnat, alors que l'Atalanta, alors que le Dortmund, en faisant tourner, ils jouaient. On n'est jamais compétitif, on a toujours des excuses. Les footballeurs français ne peuvent pas jouer le jeudi soir en Europa League et être performants le dimanche en championnat. C'est un problème structurel.
Et de budget.
Mais non, c'est pas un problème de budget, c'est un problème d'état d'esprit, de structure, de professionnalisation des clubs, de niveau d'exigence que les présidents, les entraîneurs doivent avoir avec les joueurs. Et ensuite, ça se répercute sur le spectacle, qui se répercute après sur les droits télé. Les droits télé, c'est pas attractif.
D'accord, à 100%,
Julien. La Ligue s'est plantée avec Mediapro, c'est plantée avec Amazon, même si ça fonctionne. Ça, c'est chiant pour les téléspectateurs. Ils ont tourné le dos à Canal sans parachute, comme tu l'as dit, et ils sont vus que c'était une grave erreur. Mais après, il faut qu'il y ait, oui, une rivalité PSG-OM, d'accord, mais il faut aussi arrêter qu'il y ait des problèmes dans les stades, qu'il y ait des envahissements de terrain, que les stades soient pas beaux, que les pelouses soient dégueulasses, qu'il y ait des matchs à 21h tout le temps, et que Tourelle le disait au PSG, qu'on puisse pas venir en famille au stade comme ils le font en Allemagne, comme ils le font en Angleterre. Voilà, il y a plein de choses structurelles pour relancer, rendre ce championnat intéressant sportivement, économiquement et au niveau de la télé.
Et c'est ce que j'appelle travailler le produit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que la Ligue doit faire enfin maintenant, ce qui n'a jamais été fait, parce que jusqu'à présent, les droits télé se jouaient sur des contextes concurrentiels, c'était artificiel en fait.
Lorsque tu parles du produit, là, Julien, il parlait des stades, des infrastructures, de l'accueil, effectivement, peut-être du rendu que tu as à la télévision, si tu mets des meilleurs éclairages, des plus belles tribunes, des animations. Moi, je pense qu'il faut aller s'inspirer de ce qui se fait dans les ligues de sport américaines. Tu parles du produit, Cyril, dans les contenus, le digital. À développer l'interaction, l'interactivité avec les spectateurs, développer, je pense, ce que les Américains appellent la Fantasy League, c'est-à-dire sélectionner tes joueurs, donner plus la parole aux joueurs, même dans la présentation des joueurs. Lorsque tu regardes un match de football américain, à la présentation des équipes, t'as des trucs très cons, pardonnez-moi, mais t'as une incruste du joueur qui donne son nom, l'endroit où il a été formé, par où il est passé. Ça donne tout ça, ça construit des petites histoires autour des équipes, ça implique les supporters. Je pense que le merchandising doit être développé, la culture de vintage, l'histoire de notre championnat, la Ligue 1. Pourquoi on voit pas plus d'actions de Chris Waddle, de Jean-Pierre Papin, de Sonny Anderson au cours des émissions? Voilà pourquoi ces légendes de la Ligue 1, on ne les utilise pas plus dans le traitement des matchs, dans le débrief des matchs. Donnons envie, rappelons aux gens ce qu'a été la Ligue 1, les émotions qu'elle a déjà procurées, et donc
tout ça, c'est le rôle de LFP Média, a créé une entité pour ça. Moi, je pense que, je ne sais pas ce que cette entité sera capable de faire, ils ont commencé des choses. Ce que je veux simplement dire, c'est que ça n'était pas possible d'en tirer les bénéfices pour cet appel d'offres-là. C'était trop court. Et compte tenu de ce que dit Julien, les sujets de tribune, d'envahissement de terrain et tout, c'est pas neutre. Hein. Il a 100% raison. Il faut éradiquer ces choses-là. C'est dramatique.
Là, il y avait une image du club de Luton en Angleterre qui redescend.
Ils applaudissaient.
Et ben voilà, ils étaient en standing ovation parce qu'ils étaient tellement contents d'avoir passé une année en première ligue. Nous, on a 3 qui sont en Ligue 2, ils descendent. Il faut qu'ils aillent s'expliquer avec les supporters. Il y a les fumigènes. Bref, on en parle chaque année.
Ouais, mais ce sera un autre débat. Juste toute petite parenthèse.
Mais
je vois sur les réseaux, on se félicite de l'envahissement de la pelouse de, je crois,
oui, c'est Angers,
parce qu'ils remontent. Lorsque c'est à Metz pour gueuler contre leurs joueurs parce qu'ils ont perdu contre Lyon, ça fait l'ouverture des JT. Donc il y a quand même une distance à trouver dans les règlements
également. Mais il y a une question là aujourd'hui sur les droits télé. Imaginons que le président du PSG, c'est pas Nasser, c'est président d'un grand groupe français, qui n'a aucun lien avec les médias en France. Il se passe quoi ? Il se passe quoi ?
À mon avis, il y a une intervention politique. De toute façon, il y en a toujours eu. Si c'est Bernard Arnault, par exemple, qui pourrait, si lui n'aime pas le foot, mais ses enfants, c'est le cas. Si un jour LVMH possède le PSG, oui, ça peut être une.
Et donc il y a une intervention politique. Mais
ouais,
si c'est quelqu'un,
qu'il y aura une intervention politique pour faire en sorte qu'effectivement,
c'est que là, il y a une solution parce que Nasser a les liens évidents avec beIN Sport. Et donc du coup, c'est dans tout son intérêt, parce que Cyril l'a dit, il faut que le PSG soit compétitif en Ligue des Champions, donc il faut qu'il y ait une Ligue 1 qui gagne de l'argent grâce aux droits télé, etc., etc.
Il y a aussi une question peut-être sur les investisseurs étrangers. Hein. Quand on parle d'attractivité, si on dépasse un peu le cas des droits télé, est-ce que la Ligue 1 est attractive ? Elle l'est pour des investisseurs étrangers. Il y a beaucoup d'investisseurs qui ont racheté des clubs français parce que c'est pas cher finalement, parce que c'est pas cher et ils se disent avec une culture américaine, on va être capable de
parfois une subvention.
Alors c'est ce que j'allais dire. Le problème c'est qui rachète réellement, parce qu'il y a des investisseurs. Et bon, encore une fois, je reviens sur l'OM. Le malheureux Franck McCourt, il est quand même constamment critiqué. Enfin, honnêtement, c'est assez exemplaire, l'engagement de Franck McCourt. Il n'y a pas que dans le foot d'ailleurs, mais l'engagement de Franck McCourt à l'OM. Il met de l'argent parce que l'OM a des moyens. Il met un président, il le laisse travailler. Voilà, le contexte est difficile. Il y a des années où ça va, des années où ça ne va pas. Bon, s'il n'y avait que des Franck McCourt comme investisseur à l'étranger, le foot français se porte très bien. Parfois, on est quand même aux mains, effectivement, de gens pour qui on est sur un. Les clubs sont plutôt des prétextes. Donc, il y a un vrai intérêt des investisseurs. Après, il faut qu'on arrive à avoir les bons. Et sachant que les investisseurs en France, à part François Pinault, c'est important, il n'y a aucune grande fortune française qui investit dans le foot. Parce qu'il y a toujours une condescendance par rapport au sport et par rapport au foot dans les milieux un peu capitalistiques français. Ça, c'est comme ça. Hein. Ça n'a pas changé depuis des dizaines d'années.
Stéphane nous appelle au 32-16. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour.
Tu veux participer à notre débat ? La Ligue 1 est-elle encore attractive ?
Bon, pour moi, si ça reste à l'heure actuelle, non. Il n'y a que Paris Saint-Germain. Et à l'heure actuelle, de toute façon, si on veut vraiment que la Ligue 1 soit attractive, de toute façon, il faut se faire à l'heure actuelle, il faut qu'il y ait des gros investisseurs pour qu'ils puissent racheter des clubs en France, c'est pas le moment. C'est-à-dire, comme pour Marseille, si on veut, comme vous disiez à l'antenne, qu'ils se tirent la bourre au Paris Saint-Germain et au OM, il faut qu'il y ait un gros investisseur qui rachète l'OM et ainsi de suite pour d'autres clubs aussi de Ligue 1, comme Monaco ou comme Lyon, etc. Tant que ça restera comme ça, elle ne sera pas attractif. Ça nuit. Moi, depuis des années, moi, je suis de la génération d'Imeco, les grandes coupes d'Europe qu'on a eues et qu'ils ont fait, etc., à Marseille. C'était Thierry Labour, il y avait des grands joueurs, c'était différent.
Pardonne-moi, Stéphane, je suis obligé de te couper parce que la ligne n'est pas très bonne. On va tenter de te reprendre dans quelques instants. Juste vous faire écouter Francaise, parce que les clubs s'inquiètent, forcément, l'entraîneur de Lens qui en a parlé hier en conférence de presse.
En tout cas, pour les clubs, c'est un vrai sujet. Ça, c'est sûr. Quand vous êtes à 48 heures de la fin de la saison, ça veut dire que vous n'avez jamais été aussi près de commencer la saison suivante et que vous n'avez aucune visibilité sur des droits TV et vous connaissez l'importance des droits TV dans le monde du sport, mais du monde du football. C'est un vrai problème quand même. C'est une vraie problématique. Je me doute et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière pour qu'il y ait des réponses rapides. J'espère que les clubs et ceux qui dirigent les clubs auront une réponse le plus rapidement possible parce que une grande part du budget. Donc, évidemment que c'est essentiel.
Francaise, Cyril, une réponse le plus rapidement possible. Ça va jouer quand là ? Est-ce qu'on peut attendre jusqu'à début juillet ? Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre ? Est-ce que c'est possible ?
Tout est possible, c'est déjà arrivé dans certaines circonstances. Moi, je trouve globalement, les entraîneurs s'inquiètent un peu, les présidents pas trop, en tout cas pas publiquement. Donc je pense qu'ils ont quand même un certain nombre de garanties. En tout cas, ils ont confiance en Vincent Labrune et en la LFP. Et c'est déjà quand même une victoire pour la LFP, il faut le reconnaître. Ça tient globalement pour l'instant la solidarité du foot français
c'est
sur
ça.
Ce sujet.
Le climat
et
est
ça
serein.
Ça n'a pas toujours été le cas.
Le climat est serein. Ce que tu nous dis, c'est que les présidents de Ligue 1 ont déjà des informations et les donnent pas à RMC et à Arthur Perrault qui suit de près ce
qui n'est pas dans leurs habitudes. Donc, à un moment donné, ils savent pas tout quand même. Mais globalement, il y a une sorte de pack derrière le foot français, derrière la LFP qui a l'air de tenir le coup.
Voilà. Ok, parfait. En tout cas, on suit ce dossier forcément sur RMC, rmcsport.fr pour toutes les dernières informations sur les droits télé, car ça va nous préoccuper ces prochaines semaines. Arthur, tu restes avec nous. Tu suis le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé n'est pas dans le groupe. On en parle dans quelques instants. Il n'est pas dans le groupe pour affronter Metz ce soir et dans quelques jours, dans une semaine, il y a PSG Lyon en finale de la Coupe de France. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h30 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Cyril Linette, Marc Madiot, Julien Beneteau, Simon Dutin. Dans une dizaine de minutes, on s'en fout pas le zapping des GG. Alors, beaucoup d'informations à vous donner. Hein. J'ai un défenseur, le défenseur du RC Lens qui refuse de jouer le dernier match car il a l'Euro à préparer. J'ai Mostafa Mohamed qui refuse de jouer le dernier match, mais là c'est parce qu'il ne veut pas s'afficher dans cette lutte contre l'homophobie. C'est la dernière journée de Ligue 1 aujourd'hui. J'ai de la boxe, j'ai du rugby. Bref, j'espère que ça vous intéresse parce que j'ai tout préparé. Vous allez voir, je vais dresser la table. Ça va être absolument magnifique. Et puis du Victor Wembanyama, on devait en parler dans la punchline des GG. Aujourd'hui, on va décaler un petit peu notre conducteur, le bousculer un petit peu pour vous donner cette information Mbappé. Arthur Perrault est resté avec nous dans le studio RMC. Arthur, pas de Kylian Mbappé ce soir pour le dernier match de Ligue 1 du Paris Saint-Germain.
Oui, puisqu'il n'apparaît pas dans le groupe publié par le Paris Saint-Germain à 10h sur son compte X, ex-Twitter. Ce que l'on peut dire donc, c'est que Kylian Mbappé aura fait disputer son dernier match de Ligue 1 dimanche dernier face à Toulouse au Parc des Princes avant la célébration de ce 12e titre de champion de France. Au club, on avance pour l'instant une gestion de l'effectif et du temps de jeu de chacun avant la finale de la Coupe de France qui est prévue samedi prochain, ce sera face à Lyon. Que cela s'inscrit aussi dans un nouveau large turnover mis en place par l'entraîneur Luis Enrique, puisque Donnarumma, Ruiz, Vitinha ou encore Ousmane Dembélé sont aussi absents de ce groupe pour affronter Metz. Et puis évidemment qu'on va repenser aux récentes prises de parole de l'entraîneur espagnol qui, d'abord on se souvient, il y a de ça quelques mois, disait « je prépare déjà la saison prochaine sans Kylian Mbappé » et aussi disait ces derniers jours et notamment hier en conférence de presse de veille de match, mon dernier objectif, et c'est là le plus important, et bien c'est soulever ce dernier trophée, cette coupe de France samedi prochain face à Lyon.
Merci beaucoup Arthur Perrault. Quelle est votre lecture de cette information? Elle est factuelle, Kylian Mbappé n'est pas présent à Metz ce soir pour son dernier match de Ligue 1. Quelle est votre lecture, Cyril Linette?
C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que Luis Enrique était très fâché après le match contre Toulouse, la défaite à domicile le jour de la remise du trophée. Beaucoup plus fâché que n'importe quel autre match. Il l'a dit, c'est le pire match de la saison. Qu'après, c'est allé un peu crescendo. Juste après, il était fâché amer. Quelques jours plus tard, il a eu une déclaration fracassante sur le fait que des joueurs qui n'avaient pas la bonne attitude ne porteraient plus le maillot du Paris Saint-Germain l'année prochaine. Et puis il a fini par dire, moi je ne suis pas très content de mon effectif et il y aura beaucoup de changements. Donc on a l'impression que lui-même se radicalise un peu dans la dernière semaine. Est-ce que cette radicalisation concerne Kylian Mbappé? Parce que finalement, contre Toulouse, il y avait des joueurs un peu lambda et Kylian Mbappé. Si ça concerne Kylian Mbappé, ça veut dire qu'il considère qu'il a d'ores et déjà décroché, qu'il ne fait plus partie, entre guillemets, des plans et du club. Et dans ce cas, il n'est pas impossible que la semaine prochaine, il s'en passe. Ça n'est pas impossible à mon avis.
Ok, ce n'est pas impossible, c'est ta lecture de ce dossier. Simon Dutin.
Alors, tout comme ça ne m'étonnerait pas que Mbappé soit peut-être sur le banc, au moins au début de la finale de Coupe de France, il y a quand même deux lectures, parce que ce match à Metz ne sert à rien pour le Paris Saint-Germain. Mbappé, il est déjà meilleur buteur de Ligue 1. Bon, faut pas oublier qu'il y a des échéances, il y a l'Euro. Luis Enrique se projette peut-être déjà en effet sur la saison prochaine et a envie de construire une petite aventure collective avec ceux qui seront là la saison prochaine. Je ne sais pas. Et il n'est pas impossible non plus d'avoir la lecture la plus simpliste aussi, à savoir on le met au frigo pour ce match à Metz qui ne peut attirer que des ennuis, une cheville cassée, un ligament croisé, et puis au moins il sera en pleine forme, le dragster, pour mettre son triplé en finale de Coupe de France et faire ses adieux, quitter la scène comme on imagine qu'il va finir par le faire.
Ok, donc toi tu milites plutôt pour cette option?
Bon, à mon avis oui, il le ménage, c'est dealer avec lui et il le mettra titulaire en finale de Coupe de France.
Il fait sans lui de Cyril Linette, il peut faire sans lui. Ok, il serait pas incohérent.
Le banc, un truc comme ça.
Il en est capable, en effet.
Marc Madiot.
Moi, je trouve que ce qui a été annoncé tout à l'heure est une excellente nouvelle.
On parle toujours de Mbappé ou on parle de Mourinho à Marseille?
Non, on parle de Mbappé.
Très bien.
Non, c'est une excellente nouvelle parce que on a un entraîneur qui est le patron de son vestiaire, qui va décider. Alors, tout ce que j'ai entendu précédemment est recevable, bien évidemment. C'est des éléments qui sont entendables. Mais ça a au moins une qualité, tout cela. C'est que ça met en évidence que c'est l'entraîneur, le patron. et c'est Enrique qui décide, qui va décider ou non de faire rentrer des joueurs à Metz, qui ne les met pas sur la feuille de match, c'est lui qui décide, et c'est lui aussi qui décidera pour la finale de la Coupe de France.
Ça, on a bien compris, c'est vrai, Marc.
Eh ben oui, mais c'est une bonne nouvelle.
Est-ce que Luis Enrique peut se permettre de se priver de Kylian Mbappé
non,
pour
non, non, mais attends.
Pour aujourd'hui, oui.
Et Enrique est le patron, et il sera le patron samedi pour la finale de la Coupe de France, et il sera le patron pour la saison prochaine. Donc, excellente nouvelle, réjouissons-nous.
Ok, tu vas voir Cyril quand il commence à montrer le doigt, là il commence à s'énerver pour l'instant, non, ça, mais ça montre très
c'est formidable ce qui se passe au PSG, c'est un jour de liesse, c'est fantastique.
De
mais oui, bien sûr, bien sûr, enfin l'entraîneur est le patron. Formidable.
Ok, mais toi, patron du Paris Saint-Germain, tu te prives de Kylian Mbappé parce qu'il part ?
Et s'il n'est pas en forme et s'il n'est pas dans le mood, dans le tempo de la finale de la Coupe de France, je le laisse à la maison. Je l'invite même pas au stade, il reste chez lui, il part à Madrid ou il va à Dubaï ou je ne sais où en vacances.
Julien Beneteau.
Oui. Mais quoi ?
Bonsoir.
Je ne sais pas si tu as compris de quoi on parlait là, Kylian Mbappé, c'est quoi ta lecture ?
Il se passe de lui aujourd'hui, oui, et ça change rien.
Non, et pour aujourd'hui, c'est sûr, ça change rien. Voilà, mais anticipons.
Après, anticipons. Est-ce que ça veut dire qu'il jouera pas la finale de la Coupe de France ou pas? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Il peut le mettre.
Tu t'en fous peut-être, non?
Il peut le mettre remplaçant. je m'en fous un peu, en plus. Voilà. Est-ce qu'il a envie de marquer son territoire, parce que c'est lui patron, Enrique, peut-être. Il l'a un peu fait
déjà.
Il l'a déjà fait depuis quelques mois. Voilà. Est-ce que Mbappé a envie de jouer cette finale de Coupe de France? Sûrement. Est-ce qu'il préfère être prêt pour l'Euro et emménager à Madrid aussi? Donc, je ne sais pas si le fait qu'il ne soit pas dans le groupe, ça veut dire quelque chose. Okay. Donc, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur.
Est-ce que parfois, vous qui avez déjà managé forcément des stars, Marc, je me tourne vers toi, mais est-ce que parfois, tu as senti des joueurs, des coureurs, pour parler de ton métier, qui n'étaient plus dedans? Et donc, ça ne servait à rien. Malgré leur performance, malgré leur niveau, ils ne sont plus dedans.
Bien sûr, et c'est humain. Hein, ça peut arriver, et c'est logique. Non, ça fait partie du game.
Ok. Quelque chose d'autre à rajouter sur ce sujet,
Cyril ? Ça fera des débats pour toute la semaine. Parce que la semaine était un peu longue entre la dernière journée de championnat et la finale de la Coupe. Là, c'est pas mal.
Ouais, mais on parle pas, c'est vrai que c'était.
Et petite anecdote, Luis Enrique, c'est son prénom. Donc quand en fait on enlève Luis pour l'appeler Enrique, c'est comme un type qui s'appelle Jean-Pierre qu'on appellerait Pierre. En fait, voilà. C'est juste.
Je pensais que tu allais dire Jean-Christophe et qu'on appelle Christophe.
Mais... Voilà, c'est ça.
Très déçu que tu n'es pas.
C'est amusant.
Tu n'es pas pour ça. Bon.
Ouais,
allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Forcément, toutes les informations concernant cette actualité de Kylian Mbappé qui n'est pas dans le groupe parisien à retrouver sur rmcsport.fr. Allez, à tout de suite. On s'en fout pas. Beaucoup d'informations à vous donner aujourd'hui. On va prendre le temps d'en discuter, car il y a des joueurs de Ligue 1 qui ne veulent pas jouer cette dernière journée. Rien à voir avec Luis Enrique. Pour d'autres raisons, plus difficiles à entendre. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h41, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission ce matin avec Simon Dutin, Cyril Linette, Marc Madio, Julien Beneteau. À partir de 11h, justement, nous allons profiter de la présence de Julien dans le studio RMC, notre spécialiste tennis, car nous sommes à une semaine de Roland-Garros. Les Cadors vont mal. Beaucoup d'interrogations autour de leur réel niveau actuellement. Novak Djokovic, Rafael Nadal. Faut-il s'attendre ou faut-il avoir peur d'un Roland-Garros au rabais? Ce sera notre débat. Les GG ne sont pas d'accord. Vous pourrez participer au 32-16 à 11h45. Dans une heure maintenant, c'est un grand moment. Les GG contre-attaque. Vous avez tous choisi un débat et vous allez tenter de le défendre avec vigueur, avec force, avec rage. Parce que si vous êtes l'heureux élu, vous allez pouvoir prendre les commandes de cette émission, mes GG. J'ai envie de commencer par Marc, forcément, qui nous avait proposé, et je vous le dis, si vous n'avez pas écouté l'émission la semaine hier, il nous avait proposé Pogacar, doit-il être gentil? C'est ce qu'il nous avait proposé comme question. Marc, ton rendez-vous, ton débat, aujourd'hui, on t'écoute.
T'as bien retravaillé, je crois, ta question.
J'ai retravaillé la question, j'étais à 12 ou 13% hier, sur doit-il être gentil? Aujourd'hui, j'insiste. Et je pense que je vais gagner avec Pogacar. Doit-il être méchant? Ne riez pas.
Donc, 15%, on va voir à combien il va passer.
Alors, si tu fais plus de 15%,
c'était une victoire.
C'est déjà une très belle victoire. Bravo Marc Madio pour ce débat proposé aujourd'hui. Pogacar, doit-il être méchant? Cyril Linette, ta proposition?
Ah, mais c'est pour tester justement. Dans quelques jours démarre une Coupe du Monde de foot. Eh oui, mais c'est la Kings League World Cup. Alors, c'est une compétition de foot à 7 créée par l'ineffable Gérard Piqué, célèbre tennis également. 32 équipes, des règles à mi-chemin entre le foot et un jeu télé, des streamers, des people, et puis d'ex-stars du ballon rond, Hazard, Nasri, Totti, Casillas, Agüero, mais aussi, semble-t-il, Neymar ou Andrei Shevchenko, qui, je pense, ne seront pas sur le terrain. Question, voilà, c'est un bon test. Est-ce que ce type de format vous intéresse? Est-ce que c'est du foot ou pas du foot? Est-ce que c'est utile au développement du foot ou est-ce que c'est des choses qui ne nous concernent pas et qui sont du registre de l'anecdotique?
Du foot ou pas du foot? Vous pouvez aller voter pour Cyril Linette si ça vous intéresse, évidemment. Simon Dutin, ta proposition?
Oh bah ça va peut-être faire plaisir, mon cher Jean-Christophe. Moi, j'ai envie de parler de Scotty Badass Scheffler, le numéro un mondial de golf qui dispute actuellement l'un des quatre tournois majeurs de la saison, l'USPGA. À Louisville, Kentucky, vendredi matin, il voulait se rendre très tôt au club de Valhalla où se disputent les épreuves. Tu sais, c'est des mécaniques de précision. Les golfeurs, il avait besoin de plusieurs heures pour faire son stretching. Son,
attention,
son
on nous fait passer 20 secondes normalement. Hein, nous
voilà. Il s'est fait arrêter par la police parce qu'il voulait contourner un blocage suite à un accident. Il a fini au trou avec les menottes. Il est revenu juste à temps pour disputer sa partie et il a fait une partie exceptionnelle, même s'il a un peu craqué hier. Est-ce que le golf a besoin d'histoire comme ça, de bad boys comme ça, pour devenir un petit peu plus universel, un petit peu plus populaire?
De Jean-Christophe.
Oui, voilà. Okay.
Évidemment, grand golfeur devant l'éternel.
Et badass.
Merci pour cette proposition. Julien Benneteau.
Donc voici le sujet avec lequel on terminera l'émission. C'est pour rendre hommage en même temps à une légende de coaching, Jürgen Klopp, qui va coacher son dernier match à Liverpool. Pour moi, c'était le mariage exceptionnel. Et j'ai peur que Liverpool connaisse des mois ou peut-être une ou deux saisons compliquées, comme Manchester United l'a connu avec l'après Ferguson, comme Arsenal l'a connu avec l'après Wenger, comme la FDJ la connaîtra après Marc Madio. Ça va arriver un jour.
Il est bon, hein.
Et en fait, voilà, c'est est-ce que vous craignez que les Reds, entre guillemets, rentrent dans le rang? Et en même temps, c'est de rendre hommage à ce magnifique coach qui est Jürgen Klopp.
Ok, c'est la proposition et un petit clin d'œil, ça c'est pour l'Amadou évidemment, à Marc Madio. Bravo. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Réponse donc dans une heure. Précipitez-vous tout de suite. On s'en fout pas.
RMC, le zapping des Grandes Gueules du Sport.
Allez, plusieurs informations à vous donner. L'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est le défenseur du RC Lens, Kevin Danso, qui refuse de jouer le dernier match de championnat ce soir. On s'en fout pas. Simon Dutin.
Je m'en fous pas.
Marc Madio.
M'en fous.
Julien Benneteau, Cyril Linette,
je m'en fous pas.
Le RC Lens devra aller chercher une qualification européenne sans son meilleur défenseur Kevin Danso, alors que les 100 et or jouent un match décisif, donc c'est ce soir face à Montpellier à 21h. Francaise n'a pas convoqué le défenseur autrichien qui n'a pas non plus participé à l'entraînement de veille de match samedi. Il faut dire que cette semaine Danso a fait part de sa volonté de ne pas jouer ce dernier match de la saison, mis sous pression par la sélection autrichienne à l'approche de l'Euro, bien qu'il soit apte à disputer cette rencontre. C'est ce que nous a dit dans un communiqué le RC Lens. On nous apprend que le joueur est allé voir Francaise pour lui dire de ne pas jouer la rencontre et le club a considéré que le joueur s'était écarté lui-même et c'était lui-même qui avait pris cette décision. Donc le club ne l'a pas sélectionné et on rappelle qu'il ce sera certainement c'est au revoir en plus avec le RC Lens parce qu'il a un bon de sortie. Comment vous analysez tout ça, Cyril?
Mais non, je comprends pas. C'est un peu une histoire à dormir debout parce que visiblement c'est le coach autrichien qui l'a appelé pour lui dire, alors qu'il revient de blessure, si tu prends le risque de jouer, t'es indispensable pour moi, puisqu'il faut pas que tu te blesses. Donc si tu prends le risque de te blesser à l'occasion du dernier match, ben je te sélectionnerai pas. Donc s'il est indispensable pour le sélectionneur autrichien, comment est-ce qu'il peut dire que s'il se blesse avec Lens ou s'il prend le risque de jouer avec Lens, il sera pas sélectionné?
Oui, il y a du chantage.
Ouais, c'est du chantage et un peu absurde. Donc je comprends pas très bien cette histoire et la communication de Lens, du coup, qui cherche à être très signifiante en fait, hein, puisqu'ils auraient pu mettre ça un peu de côté. Ils ont choisi de pas du tout le faire.
Un
mais
petit
de
peu
le dire.
Afficher son joueur,
ouais, de l'afficher, ouais,
et de le mettre en premier plan et de le mettre face à ses responsabilités. L'Autriche qui affrontera l'équipe de France, hein, ce sera le 17 juin prochain pour démarrer cet Euro à Düsseldorf. Simon?
Moi, j'ai pas vraiment d'avis parce que d'un côté, tu peux comprendre la position d'un joueur qui s'avance vers une échéance qui sera peut-être unique dans une carrière, un Euro quand même, avec une Autriche qui a une sélection un petit peu séduisante et qui voilà, tu peux comprendre qu'entre le dernier match d'une saison de Ligue 1 et un championnat d'Europe, bon, la question se pose pour le joueur. Lens, ils sont vraiment fâchés, en effet, parce qu'ils appuient un petit peu la communication dessus. Je pense que c'est un bon débat. Hier, je sais que vous parliez de Teddy Riner qui fait l'impasse sur les mondiaux pour les Jeux et tout le monde salue cette décision parce que machin. Bon, là, c'est Danso, il est autrichien, on a un petit peu de mal à comprendre. Moi, je comprends pour un joueur qui a été plusieurs fois blessé cette saison.
Grande différence. Sport individuel et sport par équipe.
Oui, bien sûr. Est-ce qu'il trahit son grande équipe différence. Combien grande de points différence. Il leur a fait gagner cette non. saison. Combien de points ouais, il leur a fait gagner ces dernières saisons.
C'est une grande différence.
À quel point tu peux remercier un joueur qui t'a tant apporté ces dernières saisons.
Là, c'est
une vraie question qui se pose, ça pose un vrai débat.
Ok, je pensais pas qu'on parlerait de Teddy Riner dans la case d'Anso.
C'est ça, la magie des grandes gueules.
Et oui, vous êtes omnisport évidemment. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est l'attaquant de Nantes, Mostafa Mohamed, qui refuse aussi de jouer le dernier match ce soir. Pour une toute autre raison. On s'en fout, on s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Marc Madiot.
On s'en fout pas.
Ok.
On s'en fout pas.
Cyril Linette.
Non, on s'en fout pas.
Selon Ouest France, Mostafa Mohamed a choisi de ne pas jouer donc ce match Monaco-Nantes. Sa décision intervient alors que la LFP organise sa campagne de lutte contre l'homophobie à l'occasion de cette dernière journée de Ligue 1. L'attaquant égyptien avait pris la même décision dans des circonstances similaires la saison dernière. Pour cette dernière journée de Ligue 1, tout de même, la LFP avait décidé de réduire la voilure. Alors tous les joueurs du championnat porteront un maillot spécial sur lequel figure un badge symbolique aux couleurs du drapeau LGBT pour lutter contre l'homophobie. Une initiative qui remplace le flocage arc-en-ciel utilisé les saisons passées et qui avait gêné bon nombre de joueurs, on en avait déjà parlé dans cette émission. Et l'an dernier, je le rappelle, encore une fois, Mostafa Mohamed avait déjà refusé de jouer à Toulouse à l'occasion de cette journée dédiée à la lutte contre l'homophobie. Il avait même été sanctionné par son club. Simon Dutin.
Bah, il y a encore du boulot à faire, hein, malheureusement. On peut que s'incliner devant la bêtise de certains joueurs qui confondent la lutte contre l'homophobie et la promotion, j'en sais rien, de l'homosexualité ou j'en sais rien. Alors ils ont visiblement des gros blocages avec ces concepts un petit peu trop progressistes pour eux. Il y a un travail d'éducation et je pense que les clubs doivent prendre leurs responsabilités au moment où ils engagent les joueurs, où ils font signer les contrats. Je pense que ça devrait figurer comme des obligations et à ce titre-là être sanctionnées lorsqu'elles ne sont pas respectées.
Je rappelle que la Ligue, cette saison, avait voulu rééquilibrer les campagnes de lutte contre les discriminations et mettre sur le même plan et le racisme et la lutte contre l'homophobie pour qu'il n'y ait pas de jaloux, même si c'est un peu dit vulgairement. Julien Beneteau.
Oui, bah c'est exactement ça. Il y a des journées contre le racisme et contre l'homophobie, contre toute forme en fait, de discrimination, quelle que soit...
Cette discrimination, ok.
Ouais. Et c'est affligeant de voir qu'il y a encore des joueurs, enfin c'est pas des joueurs, des gens qui pensent comme Daniel Simon, qui confondent beaucoup de choses, quelle que soit leur foi religieuse, parce que c'est souvent lié à ça, de juste respecter un être humain pour ce qu'il est, ce qu'il fait, dans son cercle privé. Enfin voilà.
Cyril.
Faut pas être trop béni oui non plus. Moi, j'ai regardé les commentaires sous ces brèves dans les différents sites internet que je consulte. J'ai vu que l'équipe l'avait même désactivé, la fonction commentaire. Ça veut dire que globalement, les commentaires étaient probablement très en faveur du joueur. En tout cas, beaucoup de commentaires en faveur. Donc, des commentaires discriminants. Donc, des commentaires homophobes. C'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui, malheureusement. Donc, les joueurs ne sont qu'un exemple. Ils ont aussi beaucoup de soutien, beaucoup de supporters qui, malheureusement, font la même confusion. Et ça montre bien le devoir de responsabilité des institutions du sport et notamment de la LFP qui a un peu battu en retraite hein, parce qu'avant il y avait le maillot floqué. Enfin, c'est pas simple, hein, c'est pas du tout un jugement négatif. Je pense qu'elle a raison et la Fédé qui a embrayé d'ailleurs sur des initiatives du même genre cette semaine, ils ont vraiment raison de se battre là-dessus parce que c'est un combat qui est compliqué.
Marc, tu veux y aller ou on passe ?
Non, je voudrais juste ajouter une chose. La noblesse du combat, elle n'est pas contestable. Moi, j'ai plus une question sur quel est le vrai rôle du sport dans notre société. N'est-ce pas la démonstration de la faillite de nos pouvoirs politiques, tout ce qui se passe dans par rapport à toutes ces causes plus nobles les unes que les autres. J'ai un problème. Je pense que le sport et notamment les Jeux Olympiques devraient être un endroit de neutralité absolue et totale. Absolue et totale, quelles que soient les causes, quelles que soient les situations politiques. Le sport est sans doute un des derniers ou la dernière situation qui permet au monde et à l'ensemble de la population mondiale de se réunir sur un endroit de neutralité et d'osmose et de communion. Et vouloir à chaque fois, quel que soit l'événement sportif, rajouter une cause sociétale là-dessus, je suis désolé, ce n'est que du sport. Et le sport est un endroit où on se retrouve. Et c'est pas un endroit où on est là pour faire de la politique quelque part, quelles que soient les causes, quelle que soit la noblesse des situations.
Oui, mais si ça rassemble, autant avoir ce message de partage aussi.
Moi, je pense, franchement, je suis un peu, enfin, après, je sais que je suis un peu à contre-courant, mais moi, j'ai été confronté à ce, par rapport aux histoires de mouvements LGBT, j'ai un coureur qui un jour s'est manifesté à juste titre sur la situation, et il avait raison. Sauf que ça n'a été repris que par pour une seule raison, parce qu'on était en Hongrie. Il y avait des médias qui voulaient faire des interviews uniquement parce qu'on était en Hongrie. Deux jours après, on était en Italie, ça n'intéressait plus personne. C'est ça qui me gêne, moi, dans tout ce marasme. Et je trouve que c'est aux politiques de régler nos problèmes. On a un moment où on a des élections, on est en démocratie, il y a un moment où on va voter et on s'exprime par rapport à notre société. Et je suis pas sûr que ce soit au monde du sport de régler les problèmes de la société.
Et ton message est passé. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Usyk qui devient le nouveau roi des poids lourds. On s'en fout pas. Simon Dutin.
Je m'en fous.
Ah, je m'en fous pas.
Marc Madio, je m'en doutais. Julien Beneteau.
Ouais, je m'en fous un peu.
Ok. Cyril Hinet.
Je m'en fous.
C'est pour Marc, donc, et pour vous, les auditeurs. C'est une première depuis 1999. La catégorie reine de la boxe a un nouveau champion à contester. Son nom est Oleksandr Usyk. L'Ukrainien a été déclaré vainqueur sur décision partagée de ce combat tant attendu contre Tyson Fury. Il récupère donc une nouvelle ceinture supplémentaire. Il a donc les quatre. Désormais, un duel magnifique cette nuit à Riyad en Arabie Saoudite. Et c'est assez rare pour le souligner et pour le signaler. Tyson Fury, qui n'a jamais perdu dans sa carrière, a été compté. Le combat a basculé dans le 9e round. Et pour terminer, je vous propose d'écouter, ça c'était au moment où Tyson Fury n'était pas très bien dans ce combat, il a retrouvé de la lucidité après. Quoique, quand on lui annonce qu'il a perdu, bah pour lui non, il a gagné. Surtout, il y a une raison très particulière pour expliquer la victoire de son adversaire.
Je pensais avoir gagné. Il a remporté quelques rounds, mais la majorité était pour moi. Vous savez, son pays est en guerre et les gens le soutiennent pour ça, mais dans mon esprit, j'ai gagné ce combat. Nous allons maintenant rentrer chez nous, mais on se retrouvera en octobre.
Et voilà, retrouve en octobre parce qu'il y a déjà un contrat de signer le combat pour la revanche entre Usyk et Fury. Donc Usyk est ukrainien, donc il a gagné parce qu'il était ukrainien.
Moi, je serais Fury, je prendrais un peu de repos. Avant de pouvoir se réattaquer à son adversaire au mois d'octobre ou novembre, parce que là, il est encore très fatigué. Oui. J'ai vu quelques images du combat, je l'invite à les regarder scrupuleusement.
Et sachez qu'il y aura d'ailleurs le podcast Fighter ouais. Club à partir de demain qui reviendra sur ce combat hors raclée, norme entre Usyk et Fury.
Il a pris une raclée.
Et donc sa défaite est méritée pour toi et ça n'a rien à voir avec le fait que Usyk soit ukrainien, on a bien compris.
Pas vraiment, non.
Sur rmcsport.fr, toutes les dernières informations sur ce combat. 10h56, on revient dans quelques instants. Ah, dans une semaine, Roland-Garros, Julien. Ça va être beau, ça va être grand.
Ah oui, ça va être grand. Et c'est pas dans une semaine. Demain, ça commence les qualifications. Et c'est sur 3 semaines maintenant le tournoi. C'est l'opening week. Ah oui. Eh oui, Jean-Christophe, faut que tu sois précis.
Donc l'apéritif compte comme le repas.
Exactement.
Ok. Donc demain, le grand début de Roland Garros, incroyable. Les qualifications, on en parle tout de suite. On était obligé dans cette émission. Est-ce qu'il faut s'attendre à un Roland Garros et des qualifications au rabais? On posera la question à Julien Beneteau notamment. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.